Zappez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Les courses à Saint-Cloud avec l'arrivée de la première, premier le 3, 5, 1,70, deuxième le 8, 3,40 et troisième le 6, 1,90. Vous écoutez France Inter, il est 14h03 et à 14h03, eh bien, c'est 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 60 ans après, une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle, l'affaire Petiot.
C'est ici, dans son repère secret, que le docteur Satan a arraché à la vie au moins 30 innocentes victimes, hommes, femmes et peut-être enfants. Marcel Petiot devra porter le titre monstrueux de plus grand assassin du siècle.
Ans d'histoire. Tout a commencé le 11 mars 1944. Ce jour-là, à Paris, trois pompiers pénètrent dans un hôtel particulier pour y éteindre un banal feu de cheminée. En l'absence du propriétaire, le docteur Petiot, ils cassent une vitre et se précipitent à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux ressort épouvanté et appelle le commissariat. « Venez vite, dit-il, il y a une cave pleine de cadavres que l'on brûle dans la chaudière. » C'est ainsi que commençait une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle, l'affaire Petiot. Arrêté 7 mois plus tard, après la découverte de ses crimes, ce médecin, escroc et meurtrier en série, accusé d'avoir tué au moins 27 personnes, était condamné à mort et guillotiné le 27 mai 1946, au terme d'un procès qui fit autant de bruit que celui de Pétain et de Laval quelques semaines plus tôt. Il est vrai qu'à cette époque, les journalistes et les jurés de la cour d'assises de Paris savaient qu'ils avaient en face d'eux un criminel comme on n'en avait jamais vu depuis l'affaire Landru 25 ans plus tôt.
Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime.
Gilbert Collard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, l'avocat que vous êtes connaît bien sûr ce procès qui a défrayé la chronique il y a 60 ans, autant que les grands procès politiques de l'époque, Pétain ou Laval, même si Petiot, lui, n'était pas un collabo, mais un criminel de droit commun. Cela dit, ces crimes, vous l'écrivez dans un livre, sont étroitement liés au contexte de l'occupation dont il a profité. Sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire Petiot.
Sans elle, il n'y aurait probablement pas eu cette affaire Petiot.
En tout cas, il a profité, c'est ça que, voilà, vous dites.
Petiot, avant de commettre ses crimes, se signale quand même par des actes répréhensibles et un peu fous. Mais qu'est-ce qui va permettre à Petiot de créer son industrie criminelle? C'est simplement le fait, triste, que des juifs sont persécutés et qu'ils doivent à tout prix, au prix de leur vie, quitter la France pour s'expatrier afin de sauver leur peau. Et Petiot va se rendre compte qu'il peut se servir de ce leurre pour les attirer dans son sinistre cabinet noir afin de les assassiner, prendre leur argent, l'or qu'ils portaient sur eux dans une ceinture imperméable au cas où il y aurait eu un naufrage et les faire disparaître.
Alors cela dit, bien avant la guerre, Gilbert Collard, on peut dire que c'était aussi un criminel né. Vous évoquez son enfant, c'est assez terrifiant. Voilà un gamin qui prend du plaisir à tuer un petit chat en les bouillantant, par exemple, qui terrorise ses professeurs.
Ah, c'est un cas à rendre fou Marcel Ruffo, hein, parce que Petiot, bon, d'abord Petiot souffre de la séparation d'avec ses parents. Son père, qui est receveur des postes, ça a un intérêt dans l'histoire, on verra plus tard, disparaît, sa mère disparaît, il est confié à un oncle, professeur de mathématiques, très tatillon, très sourcilleux. Et tout de suite, Petiot, par son comportement, va se révéler comme un enfant monstrueux. Un exemple, il étouffe son chat et il s'endort aux côtés du cadavre. Et il passe la nuit avec la bête morte qu'il a, on ose le mot, assassiné en quelque sorte. Bon, et puis toute son histoire est jalonnée, alors qu'il est adolescent, d'actes de violence inouïs. Il va tirer des coups de pistolet contre le plafond de la salle de classe. Il va frapper les camarades, il va terroriser le professeur. Aujourd'hui, on dirait qu'on a tous les signes avant-coureurs d'un comportement criminel dangereux.
Et il vole aussi, hein, il vole des lettres, par exemple.
Mais voilà, c'est ce qui
me... Son père est en postier. Voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, surtout, c'est que c'est le même personnage qui, devenu adulte, devient un notable. Hein. Il devient docteur en médecine en 1921, ouais. S'installe à Villeneuve-sur-Yonne comme médecin. Il va en devenir maire, c'est une ville importante. Ouais. Donc, c'est vraiment un notable, mais il continue, malgré tout, de voler.
Alors, c'est ce qui devrait quand même nous rendre méfiant sur les honneurs contemporains, sur les honneurs de ce monde, quoi, parce que...
Vous voulez dire qu'il y a des petits
Ah, mais non, mais je suis persuadé...
Je
ne veux pas dire qu'ils ont tous commis des crimes extraordinaires de petits, mais je veux dire par là qu'il faut pas céder à l'illusion de l'apparat institutionnel qui se cache derrière l'écharpe tricolore, quoi. Parce que petits, qui est un extraordinaire voleur, avant de devenir un extraordinaire assassin, qui est le prototype de la crapule. Bon, il a même été interné. Et il pousse le culot jusqu'à mettre sur sa carte de visite Marcel Petiot, ex-interné des hôpitaux. Et tout le monde lira ex-interne des hôpitaux. Bon, ce type va réussir à se... Alors d'abord, il faut savoir qu'il va conduire sa campagne électorale sur le thème « Je suis le plus gentil, je suis le plus bon, j'aime l'humanité ». Et il va se faire élire comme étant un philanthrope.
Le médecin des pauvres.
Alors, il sera, ce qui fera rigoler Céline plus tard, du reste. Hein. Alors, il sera conseiller
médecin
général, il sera maire, il va même épouser la fille d'un boucher qui a boutique près du Palais Bourbon, ce qui va le l'aider.
Mais alors, il a suffisamment d'argent, c'est un notable, et il continue malgré tout à voler. Il va voler, par exemple, une croix dans un cimetière.
Bah, c'est quand même là où on peut croire aux puissances des forces obscures. Parce que, chez lui, il a des photos porno, d'une pornographie lourde, il a des bocaux pleins d'organes, pleins de viscères, et ce médecin va en pleine nuit, alors qu'il est le maire de la ville, piquer une croix dans un cimetière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on l'accusera d'avoir profané la croix, il va répondre, attendez, moi je suis un laïc, il va prendre le discours de Charras, quoi, en quelque sorte, et dire, attendez, là j'ai fait ça pour montrer à bas la calotte. Bon, enfin, c'est quand même un type qui a des attitudes complètement effrayantes, il va même aller jusqu'à piquer, voler l'électricité qui lui sert à s'éclairer chez lui.
Oui, alors quand même, malgré tout, hein, tous ces scandales font qu'il est obligé de quitter Villeneuve-sur-Yonne, sa ville, mais il va exercer ses activités de médecin à Paris, où il va acheter au début de la guerre un hôtel particulier en 1941, rue Le Sueur, hein, dans
mettra,
un quartier.
Qu'il mettra au nom de son fils.
Qu'il va mettre au nom de son
très
fils.
Très prudemment.
Mais là où il va commettre des crimes épouvantables, vous le disiez, Gilbert Collard, qu'est-ce qu'il fait? Il profite des lois antisémites pour proposer, au fond, à des juifs de s'enfuir en Argentine.
Tout à fait. Il va se rendre compte très vite que le meilleur moyen pour gagner de l'argent, c'est de créer une agence de voyage pour l'au-delà. C'est le premier...
Il appelait ça comme ça, je crois.
Il appelait ça comme ça, oui, c'est pas une invention de ma part. C'est le terme qu'utilisait Petiot lui-même. Alors, il organise le cabinet sinistre de la rue Le Sueur pour permettre l'évacuation définitive de ces malheureux qui veulent quitter la France pour échapper à la persécution, au camp de concentration, à la mort. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer complètement la maison de la rue Le Sueur. Et il va créer une espèce de cabinet, une espèce de lieu clos, à l'intérieur duquel on peut voir par un œilleton, où il va achever ses victimes après. C'est ça qui est complètement hallucinant, après les avoir toutes maquillées.
On y reviendra, mais en fait, ce qu'il leur propose, donc, c'est de s'enfuir. En fait, il se fait passer pour un passeur, Gilbert.
Ah ben, il se présente comme un humaniste, comme un homme généreux, qui est prêt à risquer sa vie, sa liberté, pour sauver des juifs. Et il a installé un peu partout dans Paris des rabatteurs, Il y a un perruquier, notamment, qui va lui servir de rabatteur principal, qui lui amène, avec beaucoup de zèle, de pauvres juifs qui veulent partir et qui vont lui proposer, et à qui il va dire, c'est un point essentiel, qu'il ne prendra pas un sou.
Bonjour docteur, y a du nouveau?
C'est bientôt ce soir 20h pour Dauphine.
Quoi déjà? Un jour de plus et je devenais fou. J'ai ce qu'il vous faut, docteur. Le deuxième versement.
Je sais, mon Dieu, tout ça est très cher, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben, les passeurs sont rapaces. C'est un risque gros. Eh oui, ben, c'est le temps des salauds.
Je sais pas comment j'y serais arrivé sans vous. Ça me dépasse. J'oublierai jamais ce que vous faites pour
moi. Oh non, toi, je vous en prie, hein, pas de sang entre nous. Hein? Pas le temps de, c'est vrai, de s'attendrir. Bon, je ne m'attarde pas parce que j'ai mes malades. Hein? Ah, n'oubliez pas une chose, pour le linge, pas d'initiales, pas d'indice, rien. Pour les bijoux, apportez tout ce que vous avez en or, pas toutes les choses de valeur. Parce que vous pourrez les convertir là-bas. Courage, hein?
Sous l'œil de la grande police, deux ombres dans l'ombre se glissent. La porte s'entrouvre d'un bond, s'échappe un air d'accordéon. On danse à la Villette quand Paris s'est endormi. Au fond d'un bal musette où tous les volets sont mis. Derrière, on y accepte que les amis, on danse à la Villette chaque soir après minuit. Viens, ma gigolette, oublions nos ennuis. L'endroit n'est pas très respectable, pas beaucoup de fleurs sur les tables, mais on n'a pas besoin de mieux en valsant les lieux dans les yeux.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le docteur Petiot avec Gilbert Collard et cette chanson de Damia, On danse à la Villette, une chanson de l'époque, à l'époque où l'agence de voyage, comme il l'appelait, du docteur Petiot fonctionnait à plein. Comment est-ce qu'il se débarrassait, une fois qu'il les avait fait venir chez lui, de ses victimes, Gilbert Collard?
Ah, il y avait un rituel qu'il avait mis en place, hein. C'était un homme méthodique. D'abord, il y avait la piqûre pour l'au-delà. Non, d'abord, il y avait, rappelons-le, on l'a dit, mais on le rappelle, il y avait le maquillage,
oui.
Puis la piqûre. Puis l'agonie à laquelle il assistait.
La piqûre, c'était en fait, il leur disait c'est un vaccin.
Ah, il leur disait c'est un vaccin nécessaire et puis il leur injectait.
Et puis il les bloquait dans cette espèce de petit cabinet.
Du cyanure, ouais. Probablement. Hein. Et il assistait à travers l'œil ton, le fameux œil ton qui a fait fantasmer plein de chroniqueurs, plein de gens. Il assistait à l'agonie. Et puis une fois que le voyageur avait fait le grand voyage, Petiot, qui n'était pas bon en dissection puisqu'il avait obtenu une note très moyenne, se régalait à découper méthodiquement, morceau par morceau, ses victimes. Une fois que le découpage était fait, il mettait la victime dans un sac, il installait le sac sur la carriole de sa bicyclette, sa carriole rurale, et il faut imaginer, en pleine guerre, avec le couvre-feu, Petiot qui circule dans Paris et qui jette les bras, les pieds, les os, les viscères, la tête. Il distribue le cadavre de tous les côtés de Paris.
Ça, c'était au début. Ensuite, il va les faire disparaître. On le verra,
après, on verra
dans sa chaudière. Alors, cela dit, il y avait beaucoup de Juifs qui désiraient s'enfuir et qui ont été les victimes de Petiot. Il y avait aussi des truands, y compris des collabos qui étaient en délicatesse avec la Gestapo et auxquels il a proposé de fuir. Ils partaient d'ailleurs avec leur maîtresse, etc. Donc, il y avait aussi ce type de victimes. Et lui-même, Petiot, c'est ça qui est assez extraordinaire, comme les Allemands croient vraiment que c'est un passeur, c'est-à-dire qu'il a des activités illégales, ils vont l'arrêter, il va se retrouver à Fresnes pendant 7 mois avec d'authentiques résistants.
Oui, alors le paradoxe extraordinaire de cette histoire, c'est que d'un côté, Petiot donne l'impression qu'il fait évader des Juifs, et de l'autre, il donne l'impression qu'il fait évader des collabos. En réalité, Juifs ou collabos, il élimine tout le monde. Mais à un moment donné, la Gestapo va finir par apprendre qu'il existe un personnage, Monsieur Marcel, qui finalement est le sauveur des pourchassés. Il va se retrouver en prison, il va être torturé d'une manière inimaginable, on va aller jusqu'à lui limer les dents. Il ne branchera pas. comme s'il avait un petit plaisir pour la souffrance de lui-même, indiscutablement pour celle des autres. Et puis, il va être libéré au bout de 7 mois. Et ça, pour tous les historiens du docteur Petiot, c'est un mystère. Pourquoi les Allemands l'ont-ils libéré? Mais au moment où il est libéré, il n'a qu'un souci, Petiot. C'est de faire disparaître les cadavres qui attendent depuis qu'il a été incarcéré chez lui, rue Le Sueur. Donc, à peine est-il libéré, qu'il monte sur son vélo, qu'il court rue Le Sueur pour faire disparaître les cadavres. Mais là, il ne peut pas les découper, il ne peut pas les distribuer aux quatre vents de Paris, il n'a pas le temps. Alors il va faire ce que Landru lui a appris, il va simplement jeter dans la chaudière les restes de ses victimes. Et il va partir. Et là, quelque chose d'inouï va se produire. La combustion provoquée par les ossements va provoquer un feu de cheminée. Et tout le quartier, comme dans un film d'épouvante, va être submergé par la suie, par la noirceur. Et on va voir jaillir de la cheminée de l'immeuble de Petiot une espèce de champignon de noirceur qui va complètement couvrir le quartier. Évidemment, l'alerte est donnée. Évidemment, les pompiers arrivent. Et évidemment, la police arrive.
Personne, c'est moi qui vous appelez.
Personne n'habite ici.
Ah non, il y a un docteur qui vient de temps en temps. Je l'ai prévenu. Il m'a donné son téléphone s'il y avait urgence.
Sur le feu de cheminée.
À la cave, il y a des corps coupés en morceaux. C'est les corps qui brûlent.
Personne ne rentre.
Je suis le frère du propriétaire, laissez-moi passer.
La police judiciaire a été prévenue.
On vient de la panier.
Il n'y a pas de temps à perdre.
Vous êtes un bon français?
Oui, je suis français.
Vous êtes au cœur d'une opération clandestine. Tous ces gens qui prennent l'action sont des cheleux ou des collabos, des traites à la patrie, exécutés, vous comprenez?
Et par la résistance?
Oui, si. Laissez-moi faire disparaître tous les dossiers.
Bon, on n'a rien vu, d'accord.
Et c'était un deuxième extrait de l'excellent film de Christian de Chelonge, le docteur Petiot, avec, on vient de l'entendre, Michel Serrault dans le rôle-titre. Petiot qui a le culot, vous l'écrivez aussi, Gilbert Collard, de venir chez lui au moment où les policiers, les pompiers y sont, et qui viennent de découvrir son crime. Ils ne savent pas que c'est lui, il se fait passer pour le frère du propriétaire.
Ah, mais non, c'est là où on comprend ce que Junger écrit dans son journal. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont le cran de faire ce que les autres n'ont pas le cran de faire. Il parlait des nazis. Bon. Mais ça s'applique à Petiot. Il faut être complètement fou pour avoir le cran d'aller sur le lieu même où les cadavres sont en train de brûler pour inventer cette histoire de résistance qui marche, ce qui prouve à quel point Petiot est un homme capable de s'emparer de l'époque, de son époque, pour l'instrumentaliser, l'utiliser et la rendre, dans la manipulation qu'il en fait, efficiente. Parce que le bon français, c'est quel bon français? Ça a été celui de Pétain, c'est celui de la résistance. En réalité, le français, il sait plus où il habite. Et quand il voit débarquer un type qui lui dit, alors qu'on n'est pas très loin de la libération.
Oui, on est en mars.
Hein, on est en mars. Bon, ouais. On n'est pas loin du tout. Bon, que ce sont là des boches qu'on a éliminées. Le policier, le pompier qui a peut-être pas eu une attitude irréprochable, eh ben il le croit, hein, et il fait comme si c'était des boches qu'on avait brûlées.
Et surtout, il le laisse partir. Et voilà que Petiot, on vient de découvrir sûrement un des crimes acharné, de droit commun les plus abominables de l'époque, et il disparaît, il s'évapore pendant 7 mois, après 7 mois,
sur sa bicyclette, il part, il disparaît pendant plusieurs mois. Alors évidemment, la France est bouleversée à ce moment-là. Hein. On va sortir de l'occupation. Paris va être libéré. Des événements extraordinaires vont se produire. Et où est passé Petiot? Où est-il passé? Alors bien évidemment, tout le monde ne sera pas dupe de son histoire de résistance. Et surtout, les résistants ne seront pas dupes, car eux savent qui est résistant et qui ne l'est pas. Donc ils vont, eux, les tout premiers, se préoccupaient du sort du fameux docteur Petiot. Et comment Petiot va-t-il réapparaître?
Alors justement, d'abord, il faut savoir où est-ce qu'il est. Hein. Oui. Il y a eu, après son arrestation, vous le disiez, Gilbert Collard, le débarquement, la libération de Paris, et lui, il profite des circonstances pour entrer dans la résistance, dans les forces françaises de l'intérieur, sous le nom du capitaine Valéry, hein, un pseudo. Et il est chargé, chose extraordinaire, de l'épuration.
Ah, mais c'est là. Alors, c'est encore, c'est pas là. Si on veut que l'histoire nous serve, ça doit nous rendre méfiants. Parce que, Petiot va se retrouver, lui qui est un meurtrier, lui qui est un cynique, lui qui a utilisé la période la plus sombre de notre histoire pour éliminer des malheureux qui voulaient s'enfuir et se sauver. Il se retrouve installé à la place finalement d'épurateur, c'est-à-dire de contrôleur de la morale. Bon, et tout le monde y croit. Petiot, c'est Tartuffe, quoi. Bon, alors les résistants, quand même, ils se posent des questions sur ce docteur Petiot. Bien évidemment, quand Petiot s'appelle Valéry, on ne le localise pas. Mais ce qui va devenir extraordinaire, c'est la manière dont Petiot va, fidèle à sa névrose, fidèle à sa psychose, se laisser prendre.
Alors justement, comment, alors, Gilbert Collard ?
Moi, je trouve que c'est fascinant.
Parce que c'est un article, hein, il lit dans le journal Résistance, un article dans lequel on dit que le docteur Petiot, toujours introuvable, était en fait, c'était le titre, un soldat du rail, c'est-à-dire voilà. Un collabo. Alors, et il est furieux.
C'est fascinant, parce que si Petiot ne bougeait pas, on aurait pu le retrouver dans les instances les plus honorables, et puis on aurait pu retrouver le docteur Valéry décoré. Mais Petiot...
C'était son nom, hein,
c'était son nom,
le nom qui s'était donné.
Le nom qui s'était donné, oui. Mais Petiot, il faut quand même entrer dans sa pathologie. Petiot est à la fois paranoïaque et mégalomane. Il ne supporte pas qu'on mette en cause son honorabilité de façade, d'apparence. Et il va prendre sa plume, et lui, le fils orphelin du contrôleur des postes, il va prendre sa plume pour écrire une lettre fatale. Il va répondre point par point au grief qu'on lui fait.
En l'accusant d'être collabo.
Cette lettre va arriver, elle va être analysée par des spécialistes excellents, et l'un d'eux va se dire, mais bon Dieu, cette écriture, elle me rappelle quelqu'un. Parce qu'évidemment, le document va tomber entre les mains des spécialistes de l'épuration. Et il y en a qui va dire, mais cette écriture, quand même, elle est caractéristique. Elle me rappelle l'écriture de Valéry.
Du capitaine Valéry.
Et c'est à partir de là, par la lettre même qu'a adressée Petiot, que le cheminement va se faire jusqu'à lui.
Et il est arrêté le 31 octobre 1944, Petiot alias Valéry. Et après une très longue instruction, il comparaît devant la cour d'assises de la Seine en mars 1946.
Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Losmer jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis 2 ans, a ouvert ses portes. Petiot, menottes aux mains, y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Un feu de cheminée fut un jour de mars 44 l'occasion de la macabre découverte. On sait ce qu'on trouva dans l'hôtel. Petiot n'est pas gêné. Ces criminels de classe sont de bonne compagnie.
Alors ce qui est étonnant, Gilbert Collard, quand on vous lit, c'est que pendant toute la durée de son procès, Petiot fait preuve d'un extraordinaire aplomb. D'abord, il ne nie pas ses crimes. Je crois même qu'il en rajoute.
Ah oui, il en rajoute, oui. Mais il a le même aplomb que Landru, du reste. Hein. Ce sont des théâtreux du crime. Hein. Ils ont vraiment édifié leur crime en estrade, sur laquelle ils se montrent. Petiot, lui, dit, mais attendez, moi, je suis un résistant.
Il avait même inventé le nom d'un réseau,
oui,
Flytox, hein, du nom d'un célèbre insecticide, disant que au fond, les gens qui étaient morts chez lui, c'était des types qu'il avait exécutés parce qu'ils étaient collabos.
Ben, tout à fait. Et il va jamais se départir du fait qu'il est un grand résistant dont on méconnaît les mérites.
Et très fier aussi d'être devant une foule comble, hein, c'est le palais de justice, c'était comble. Un jour, malgré tout, il y avait un peu moins de monde et il se penche vers son avocat, maître Florio, et lui dit, dites-moi maître, nous faisons un four aujourd'hui. C'est extraordinaire, on a l'impression qu'il était au spectacle.
Mais c'est ce qui me fascine souvent chez les grands criminels, qu'ils soient d'hier ou qu'ils soient d'aujourd'hui, hein, et aujourd'hui encore plus avec la médiatisation, c'est que l'espace judiciaire, et c'est là où il y a des failles narcissiques graves chez ces gens-là, est utilisé comme caisse de résonance d'un moi, très malade, très blessé. Petiot va faire de son histoire criminelle une expansion de son propre moi. Il est le résistant.
Alors il est condamné à mort, hein, malgré tout, et exécuté le 25 mai 1946, guillotiné. Quand on lui demande d'ailleurs s'il a encore des révélations à faire, il répond « Aucune, je suis un voyageur qui emporte ses bagages ». C'est une formule assez étonnante.
Surtout quand on pense à la manière dont il a tué ses victimes.
Justement, Gilbert Collard, qu'est-ce qui se passerait? À quoi serait-il condamné aujourd'hui? La peine de mort a disparu. Vous voulez consacrer un chapitre dans un livre qui est intitulé « Les grandes erreurs judiciaires ». Petiot, c'était quand même pas une erreur judiciaire.
Non.
Alors pourquoi
Alors pour une raison légale. À l'époque, bien sûr, la peine de mort existait. L'état de démence était défini par l'article 64, le vieil article qu'on doit aux vieux aliénistes. Il fallait l'état de démence pour qu'il n'y ait pas d'application de la sanction. Aujourd'hui, il y a un article, L122-1, qui dit qu'il n'y a pas de sanction lorsque le criminel est en état de démence, mais qui ajoute que lorsqu'il y a une altération des facultés mentales, altération, je dis bien, il y a une diminution de la peine prononcée par la juridiction qui juge. Donc, si ce texte avait existé, Petiot étant à l'évidence frappé d'une altération de ses facultés mentales, on n'aurait pas pu prononcer la peine de mort. Et probablement que 25 ans ou 30 ans après, probablement, on aurait retrouvé, pédalant sur le vélo de sa folie criminelle, avec son nœud papillon un peu flétri, le bon résistant.
C'est comme ça qu'on surnommait le bon docteur Petiot.
Le bon docteur Petiot.
Merci Gilbert Collard, vous nous avez parlé d'ailleurs comme si vous aviez été son avocat.
Ah, j'aurais aimé,
je m'en doute. En tout cas, on le retrouve aussi dans votre livre dont je recommande la lecture, Les grandes erreurs judiciaires du passé, publié chez Talendier, et dans lequel il y a tout un chapitre sur le docteur Petiot. Puis plus récemment, vous êtes également l'auteur de Assassin, Jacques Fesch, histoire du bon larron moderne, publié aux presses de la Cité. Vous avez pu entendre des extraits du film Le docteur Petiot de Christian de Chalonge avec Michel Serrault, excellent dans le rôle de Petiot. Et vous avez entendu aussi une archive pâtée de 1946, extraite du journal de votre année, disponible en cassette vidéo chez Montparnasse Éditions. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 3230, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archives sonores Virginie Bleu-Clenet, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Comilac. Demain,